France Inter. Installée à New York, l'artiste sculptrice Prune Nourry est l'auteur d'une œuvre collaborative inclassable qui explore la science, l'anthropologie et la bioéthique par le biais de représentations hybrides du corps féminin et de rituels. L'idée du sacré, des Amazones, des guerrières et de la fertilité charrie le travail de cet ancien élève de l'école Boulle qui a beaucoup travaillé en Asie. Parmi ses pièces, performances et expositions marquantes, citons Les bébés domestiques, dans laquelle elle abandonnait dans la rue à Tokyo des sculptures en silicone d'entités hybrides entre chiots et enfants, Holy Daughters à New Delhi, où il s'agissait cette fois de vaches à moitié femmes, Holy River à Calcutta sur une divinité imaginaire, sa carte blanche au musée Guimet, intitulée Holy, vous avez remarqué qu'il y avait souvent le mot Holy, ou encore Terracotta Daughters, une armée de 108 jeunes filles en terre cuite, hommage aux millions de femmes éliminées avant leur naissance à cause de leur sexe, inspirée par les guerriers de terre cuite de Xi'an. Prune Nourry est imprévisible. Elle a imaginé un dîner archéologique avec le chef Jean-François Piège, des dîners procréatifs, a soutenu les femmes iraniennes, a fondé la Catharsis Arts Foundation, est partie avec l'anthropologue Valentine Losso à la rencontre des Lacandons, ethnie maya de la forêt du Chiapas, coupée de la civilisation moderne. Elle voudrait guérir en sculptant et que ses statues soient pourvues d'âme. Elle vient d'inaugurer une grande sculpture à Miami Beach en hommage aux femmes gardes-côtes américaine de la Seconde Guerre mondiale, incarnée par la vétéran Cherokee Nelly Locust, et va montrer au Maroc son armée des 108 Chibok Girls, lycéennes enlevées au Nigeria en avril 2014 par Boko Haram. En France, elle va dévoiler 108 Vénus dans la gare Pleyel de Saint-Denis, une création dont la genèse est passionnante et vous aurez remarqué aussi la récurrence du nombre 108. On expliquera pourquoi. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Prune Nourry.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
En ce moment même, tous les gens qui en Iran se battent, sont dans la rue, iraniennes et iraniens, leur courage.
Oui, je crois que je ne peux absolument pas contredire cette première réponse. Votre première exposition a eu lieu sur une plage quand vous aviez 10 ans. Vous avez ameuté votre famille, les amis de la famille. Ils vous ont demandé où étaient les œuvres et vous avez montré un bateau échoué en disant que l'artiste, c'était la mer.
C'était des morceaux de bateau échoué avec lequel j'avais grandi. C'était un but de balade pendant des années. Et au fur et à mesure qu'il était dispersé par la mer, bougé par la mer, il devenait d'abord d'un bateau de pirate, un toboggan, puisqu'il commençait à se pencher. Puis 2 ans plus tard, des morceaux dispersés ici et là. Et en fait, je pense que c'était des Richard Serra avant l'heure. Et c'est ce métal rouillé, toutes ces œuvres dispersées qui m'ont fait penser à des sculptures.
Alors pour préparer l'émission, je me suis en partie basée sur votre belle monographie Corpus, qui est parue en français et en anglais aux éditions de La Martinière. Et alors, peu de gens peuvent se vanter d'avoir une préface de George Lucas quand même.
Ah là là.
Comment ouais, ça s'est fait ?
Je l'admire beaucoup. C'est un collectionneur qui est en train de monter un musée à Los Angeles qui ouvrira en septembre, qui s'appelle The Museum of Narrative Arts, qui est vraiment axé sur comment les mythes fondateurs nous unissent en tant qu'êtres humains. Et on partage cette passion-là pour les mythes et on s'est rencontrés à travers ça.
Il dit qu'en plus d'être une grande artiste, vous êtes psychologue, sociologue et anthropologue. Est-ce que vous vous reconnaissez ?
Wow, j'aimerais. Mais en tout cas, ce que j'aime avec le fait d'être artiste, c'est que finalement, on est spécialisé en rien, mais on travaille avec plein d'experts.
Ça, c'est vrai. Surtout vous qui en interrogez énormément. Il dit que lui, il a été particulièrement ému par votre œuvre qui est Matter Earth, qui est une œuvre dans laquelle on peut rentrer. Et c'est une amie à vous qui avait posé pour ça. Et il remarque quelque chose de très juste, c'est qu'historiquement, les statues monumentales sont souvent consacrées à des hommes.
Là, pour cette sculpture, c'est vraiment pensé pour le château Lacoste, dans le sens où la terre là-bas m'a inspirée pour créer à partir de techniques ancestrales, qui sont des techniques qu'on utilisait depuis des millénaires pour fabriquer des maisons. On les retrouve encore aujourd'hui. La mosquée de Mopti, par exemple, est fabriquée comme ça. Et donc, je me suis inspirée avec plein d'artisans, de plein de techniques différentes pour mettre au point cette sculpture-là. Et ça a été finalement un processus presque justement d'accouchement, puisque je savais pas du tout où j'allais, c'était comme un premier.
Et c'est une femme enceinte qu'on voit.
C'est une femme enceinte, ouais, qu'on voit en vue du dessus. Finalement, je sais qu'elle, même si la sculpture en elle-même, en la partie en terre disparaît, restera toujours la fondation en pierre, qui est incrusté dans le sol et qui ressemble presque, au fur et à mesure de sa fabrication, j'avais l'impression de voir des restes, des vestiges romains. Donc je me dis que voilà, si la sculpture disparaît dans des millénaires, il y aura encore les fondations.
Vous avez créé, alors c'est pas des fondations, c'est un fonds de dotation en France avec deux branches étrangères, la Catharsis Arts Foundation aux États-Unis, une autre au Nigeria. De quoi s'agit-il et croyez-vous au concept de catharsis?
Je crois beaucoup au concept de catharsis, au concept de résilience. J'apprécie beaucoup le travail de Boris Cyrulnik, par exemple. C'est pour moi un projet vraiment collaboratif, la Catharsis Arts Foundation. Je l'ai fondée avec Claude Grunitzky à New York il y a maintenant 3 ans. Et c'est parti d'un projet qu'on a réalisé au Nigeria qui s'appelle Statues Also Breathe. Et pour faire vivre ce projet, pour être dans la continuité avec ce projet, pour ne pas décevoir aussi tous les gens qui nous avaient fait confiance au fur et à mesure de ce projet, on a décidé de monter une fondation qui nous permettrait d'être dans la continuité.
Est-ce que vous pouvez dire un mot de cette œuvre qui s'intitule justement « Statues also breathe », les statues aussi respirent?
Au moment où je faisais voyager mon armée des Terracotta Daughters en 2014, il y a eu le kidnapping des écolières au Nigeria, dans le nord-est du Nigeria, et 274 d'entre elles ont été kidnappées. Alors que je marchais au milieu de mon armée, qui étaient aussi des écolières que j'avais sculptées, je me suis sentie particulièrement touchée par cette nouvelle. Et alors que je continuais de la faire voyager, j'étais à New York avec cette armée, il y a 108 sculptures dans cette armée des Terracotta Daughters, et là, j'entends la nouvelle que 108 de ces filles viennent d'être relâchées. Et j'y ai vu comme un signe. Et du coup, quelques années plus tard, suite au Covid, après ce temps où j'ai dû attendre et on ne pouvait tous rien faire, j'ai décidé de partir au Nigeria et de collaborer avec l'artiste Ade Bantu pour fabriquer une armée de 108 sculptures qui sont des visages, qui reprennent les visages des filles qui n'étaient toujours pas revenues. Leurs parents, leurs familles nous ont confié leurs portraits. Et 108 étudiants, on a créé un workshop géant avec 108 étudiants qui ont chacun retouché chacun des visages pour les rendre toutes uniques.
Prune Nori, le nombre 108 revient énormément dans votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous donner sa symbolique, vous qui avez travaillé en Asie pendant de longues années?
Je suis partie en fait du chiffre 8, qui est un chiffre à la fois très local en Chine, qui porte bonheur, mais qui en même temps a une portée universelle, puisque c'est le symbole de l'infini. Et je suis partie sur le chiffre 108 assez naïvement, en me disant, bon, bah, là j'ai 25 ans, à ce moment-là, il y a pas mal d'années maintenant, je faisais une armée de terre cuite, le projet était complètement autofinancé, je voulais pas qu'il y ait de marque impliquée, et donc en faire 800, c'était complètement hors de ma portée, j'étais déjà à faire un emprunt pour pouvoir réaliser ce projet, et je me disais aussi que 80, c'était pas assez. Et du coup, je me suis arrêtée au chiffre 108, intuitivement. Et quelques années plus tard, dans une conférence, alors que je faisais voyager mon armée, une étudiante chinoise a levé la main et m'a dit « Mais ce chiffre 108, en fait, c'est un chiffre qu'on retrouve dans toutes les religions en Asie. Vous allez avoir ça dans le taoïsme, le bouddhisme, le shintoïsme. Un chapelet bouddhiste à 108 petites boules, par exemple. Et c'est un chiffre qui, en quelque sorte, parle du cosmos, le 1, le 0 et l'infini. »
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Prune Nori, parmi vos premières performances, il y avait les bébés domestiques. Vous aviez abandonné dans la rue des sculptures en silicone d'êtres hybrides entre chiots et enfants. Vous dites que vous avez toujours été fascinée par l'évolution du genre, la relation homme-animal. Et vous notez aussi qu'au début du XXe siècle, les humains étaient présentés dans des zoos pendant les expositions universelles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis se sont servis de cobayes humains. Et aujourd'hui, il existe du yoga pour chiens. Et je voudrais savoir si vous prenez ça pour un progrès ou une régression.
En fait, je pense que c'est vraiment une manière d'utiliser l'humour pour parler de quelque chose de sérieux. Et ces sculptures, à l'époque, bon, j'avais 21 ans quand je les ai faites, c'était à un moment où il y avait des recherches scientifiques qui étaient faites sur des embryons animaux où on énucléait en gros l'œuf pour pouvoir le remplacer par des cellules humaines. Et cette nouvelle technique m'a intriguée, m'a parlé. Et c'est vrai que c'était plus une réflexion sur la frontière entre l'homme et l'animal, sur l'interdépendance entre les espèces, ce qui m'a amené quelques années plus tard à partir dans la jungle, dans le Chiapas, travailler avec Valentine Losso pour rencontrer la famille d'un monsieur, Kin Obregón, qui lui avait été dans un zoo humain en 1936. Et en fait, on a réalisé son portrait, on a des années plus tard, on a créé une exposition sur cette thématique-là, qui était la thématique de regarder à travers les yeux de l'autre, puisque dans la culture Lacandon, on se transforme chaque nuit en animal. On a aussi un animal totem à la naissance. Donc c'est presque banal, normal, de se transformer chaque nuit en un animal, là où pour nous, d'être considéré comme un animal est quelque chose de négatif. Donc c'était vraiment une manière d'essayer de voir à travers les yeux de l'autre et de renverser la situation pour se dire que finalement, tout est une question de point de vue.
Dans les murs de cette université britannique, l'un des deux seuls laboratoires autorisés en Angleterre a mené des recherches sur l'embryon humain. Depuis 6 mois, Stephen Minger et son équipe ont en effet obtenu une licence permettant de prélever sur des embryons âgés de moins de 14 jours des cellules souches afin de les cultiver. Ces cellules ont une particularité. À partir d'un seul et même modèle, elles sont capables de se transformer en n'importe quel tissu composant le corps humain, par exemple en neurones, en muscles cardiaques, en cellules osseuses ou de foie. En copiant la nature, les scientifiques pourraient créer à volonté des tissus humains que l'on pourrait implanter chez des malades.
Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment on pourrait prendre une de ces cellules souches afin de lui imposer une évolution vers un tissu humain spécifique, de telle sorte qu'elle donne naissance à toute une colonie de cellules de ce type.
Journal de France 2 sur l'autorisation de création d'embryons hybrides au Royaume-Uni en 2007. Prune Nourry, parmi tous les experts que vous avez rencontrés, j'ai dit que vous en rencontriez beaucoup pour votre travail, vous avez rencontré Stephen Minger, un scientifique qui était en train de tenter d'hybrider l'homme et l'animal à Londres. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette rencontre ?
Moi, je lui ai tout simplement posé la question en lui disant « Est-ce que mes sculptures que j'ai imaginées seraient faisables ?» Et il m'a dit « Au départ, absolument pas. » Et puis, au fur et à mesure, il a commencé à se mettre dans la peau d'un artiste, finalement. Et il a dit « Elle ne ressemblerait pas tout à fait à ça. Les ongles seraient là, il y aurait un mélange de griffes, ça ne serait pas aussi divisé. » Et finalement, je me suis retrouvée à transformer un scientifique en artiste, c'était pas mal.
Et ensuite, vous êtes intéressée à la procréation et vous avez inventé les dîners procréatifs. J'aimerais bien que vous nous en disiez un mot parce qu'apparemment, certaines personnes étaient très amusées et d'autres dégoûtées.
Oui, parce qu'il y avait une projection qu'on ne pouvait pas s'empêcher de faire, même si le repas était préparé par un chef étoilé, que tout était végétarien. Forcément, quand on est face à un œuf congelé, à une amniocentèse, à un sperme bar...
Alors le sperme bar, ce que vous avez fait aussi, qu'est-ce que c'est qu'un sperme bar ?
Le sperme bar, en fait, c'est une version pour la rue que j'ai faite du dîner procréatif, ou qui était un questionnement sur les banques de sperme aux États-Unis et comment c'est finalement devenu extrêmement commercial, alors que en France, par exemple, le don de sperme est un vrai don. Là-bas, c'est...
ça frôle l'eugénisme. On choisit un bébé à la carte.
On est financé pour donner son sperme. Il n'y a pas forcément de limite. Un homme peut donner 200 fois. Il y a des problématiques ensuite, justement, de frères et sœurs qui se découvrent des années plus tard. Et puis, il y a aussi une problématique, en fait, de plus on paye, plus on a accès à des informations, et des informations comme la religion, les hobbies, des choses qu'on ne pourrait pas se dire forcément qu'elles sont génétiques à la base.
d'Oustad Ousmane Khan pour nous téléporter en Inde avec vous, Prune Nourrie. Vous avez fait la Holy Daughters, vous en avez parlé tout à l'heure, les filles sacrées qui étaient moitié femmes, moitié vaches. Et c'était déjà parce que c'était un pays où le ratio homme-femme est l'un des plus déséquilibrés au monde. Et aussi pour replacer la petite fille à un niveau plus important. Pensez-vous qu'on puisse faire évoluer les mentalités ou provoquer des prises de conscience par l'art?
Je pense que l'important, c'est d'établir un dialogue. Pour moi, ça ne m'intéresse pas d'être dans la provocation. Donc, je suis partie travailler là-bas, à la fois avec des groupes de femmes, avec aussi Ravinder Kaur, une sociologue basée à New Delhi. Et c'est avec elle qu'on a réfléchi les différents emplacements, qu'on a placé les sculptures devant ces Mother Diary, qui sont des distributeurs de lait, où les gens vont chaque jour, comme ils iraient à la ferme, chercher le lait des vaches.
Et vous travaillez beaucoup avec le lait aussi.
Oui, j'aime beaucoup la symbolique du lait. Et c'est une symbolique qu'on retrouve pas mal dans notre inconscient collectif, comme l'argile finalement, dans les mythes de création.
Et l'homme serait fait d'argile.
Et l'humain serait fait d'argile selon les cultures, selon les mythes. Le mythe Yoruba, par exemple, le mythe qui est le mythe du Nigeria à Lagos, où j'ai travaillé pour Statues Also Breathe, et à Ile Ife, qui est cette ville sacrée du 15e siècle, où justement on dit que cette argile a été celui qui a servi à faire les humains dans le mythe Yoruba.
Alors je le disais en introduction, on retrouve souvent le mot holy qui veut dire sacré dans le nom de vos œuvres. Quel est votre rapport au sacré ?
Le sacré, il est, je pense, déjà très intime. Il y a quelque chose de très intime pour moi. La religion, c'est pas les dogmes, c'est pas quelque chose qu'on impose, c'est quelque chose qu'on ressent, on n'est pas obligé de le partager. C'est quelque chose aussi de, je pense, dans le rituel. Le rituel est très important. Je pense qu'il est même important pour rester sain d'esprit. Un rituel qu'on ne maîtrise même pas, c'est le fait de rêver chaque nuit. Ça garde notre esprit sain. Ça remet de l'ordre.
De deuil.
Le rituel de deuil, très très important. Le rituel aussi de passage, les rites de passage, que ce soit de l'âge de l'enfance à l'âge adulte, ou même après une maladie, on rejoint la catharsis aussi. Pour moi, ces rites de passage doivent vraiment être respectés, mais encore une fois, ça peut être de l'ordre de l'intime, ça peut être un rite qu'on crée soit avec soi-même.
D'ailleurs, vous en avez créé plusieurs. Il y a les rituels et la symbolique qui sont très importants dans votre travail. Je reviens au Terracotta Daughters, cette armée de 108 jeunes filles en terre cuite, puisque cette armée a été enfouie et elle sera déterrée en Chine dans un endroit qui est secret pour le moment en 2030. Mais il y en a une qui n'a pas été enfouie avec les autres.
Waouh, comment vous savez ça?
J'ai enquêté, je suis détective privée. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi? Parce que c'est aussi une croyance.
Alors, parce qu'au dernier moment, quelqu'un m'a dit en Chine, alors que j'allais enfouir les 108, qu'il ne fallait surtout pas enfouir le portrait de quelqu'un vivant parce que ça portait malheur. Et autant les 8 originales qui sont basées sur 8 petites filles, qui ne sont plus des petites filles aujourd'hui, avec qui je suis toujours en relation.
Des orphelines.
Voilà, qui ont 26 ans aujourd'hui, elles n'étaient pas enfouies. Par contre, les 108 sont des combinaisons tête, buste, jambe issues de ces filles existantes. Et l'une d'entre elles est le portrait de la fille de l'artisan avec qui j'ai collaboré, Wen Xianfeng. Et pour moi, il était impensable de même prendre le risque que ça porte malheur à sa fille. Donc on ne l'a pas mise.
Vous êtes superstitieuse ?
Dans le doute.
Oui, le pari pascalien.
J'avais 5 ans. Ma mère m'a donné un jeu de cartes. Je l'emmenais partout. J'ai grandi à Brooklyn, donc j'allais tout seul en métro à l'école et j'attendais ma mère à la bibliothèque. Elle venait me chercher après son travail. J'avais toujours mon jeu de cartes et le bibliothécaire m'a appris des tours très simples. Et quand ma mère venait me chercher, je lui montrais ce que j'avais appris. Et même si c'était des tours ridicules, elle était très impressionnée, donc j'étais persuadée d'être douée.
Prune Nourrie, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes partie dans la forêt du Chiapas à la rencontre des Lacandon, qui une ethnie maya coupée de la civilisation moderne. Et vous étiez avec l'anthropologue Valentine Losso, que vous avez rencontré, et alors là je suis un peu tombée des nues, grâce au magicien américain David Blaine qu'on entend à la télévision norvégienne en 2016. Comment ça s'est fait ?
Alors, bah, ça, c'est New York. Il y a plein d'artistes à New York. Alors, forcément, on en rencontre et on crée des relations sur 15 ans. David Blaine, qui voilà, est un humain extraordinaire. Aussi parce que bah, il a grandi avec un léger handicap quand il était petit, qui l'a forcé à se dépasser. Et ça, on ne sait pas forcément que c'est par ce dépassement, par cette catharsis, par ce rituel de passage qu'il a créé lui-même, de se donner un objectif, notamment sous l'eau, de rester en apnée pour pouvoir aller plus vite que les autres, alors qu'il avait une problématique au pied, qui a fait qu'il est devenu le David Blaine qui retient sa respiration plus longtemps que n'importe qui. Et de cette rencontre, un jour à Paris, il a décidé de faire un dîner de magiciens. Et bah, comme il ne savait pas où le faire, on l'a fait à la maison. Et ce qui, normalement, il n'y a pas de non-magicien. Et on a eu la chance d'avoir leur confiance. Et à ma gauche était une femme au regard étonnant, qui me regardait, mais comme si son regard traversait mon visage. Et elle m'a raconté son histoire. Elle avait été en fait aveugle pendant plus d'un an, mais elle ne savait pas pour combien de temps elle serait aveugle au moment où, sous la direction de Philippe Descola, dont j'adorais moi-même le travail, elle devait commencer sa thèse. Et elle a décidé de partir malgré le fait qu'elle ne voyait pas. Elle a décidé de partir dans la jungle, au Chiapas, pour étudier les Lacandons, les Mayas Lacandons. Et en fait, bizarrement, c'est ce qui a créé un lien beaucoup plus fort, parce qu'elle était bras dessus, bras dessous. On l'accompagnait dans la jungle, et donc elle voyait à travers leurs yeux, il lui décrivait la jungle. Et c'est une personne qui m'a énormément inspirée, qui n'amène normalement personne dans la jungle, mais qui a accepté qu'on y aille ensemble, et on y allait par deux fois. Et là-bas, elle m'a présenté toutes les personnes avec qui elle avait travaillé, et notamment la famille de Kino Bregon. Et c'est ensemble qu'on a monté cette exposition à New York sur Kino Bregon et sur justement cette l'importance de voir à travers les yeux de l'autre.
Et en parlant justement de regard et de privation des sens, vous avez aussi expérimenté la sculpture les yeux bandés.
Quelques années plus tard, après une maladie où j'ai eu peur de, à cause des traitements et des effets secondaires des traitements, de perdre la sensation du bout de mes doigts, je me suis dit, bah tiens, à quel point mes doigts sont la continuité de mes yeux quand je sculpte. Et je sortais aussi de projets à grande échelle et j'avais envie de revenir à des projets plus intimes avec le modèle dans l'atelier, cette relation très particulière. Et du coup, j'ai demandé à des personnes non-voyantes de poser pour moi, mais sans jamais les voir avant de les rencontrer. Je les ai rencontrées en les touchant, d'abord le poignet et ensuite le visage. Et moi, les yeux bandés, donc, pendant plusieurs heures, sur plusieurs jours, je sculptais leurs portraits. Et j'ai jamais vu le résultat et on les a exposés ensuite dans le noir.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Prune Nourri, pouvez-vous nous parler de votre intérêt pour les guerrières et notamment pour les Amazones ?
À 31 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Et bah, au départ, ça a été un choc, forcément. Et juste après, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais transformer ça, en faire quelque chose ? C'est un ami notamment qui à New York, qui est réalisateur, qui m'a dit « Mais en fait, ta chance, c'est d'être artiste, donc tout ce que tu vis, tu peux le transformer en art. » Et il m'a filé une caméra, il m'a dit « Tourne-la sur toi et puis documente et tu verras bien. » Et au fur et à mesure de cette documentation, j'avais la chance d'avoir Agnès Varda à ce moment-là dans ma vie, qui était très impliquée dans ce qui m'arrivait et qui m'a proposé, au moment où j'allais commencer la chimio, et je voulais couper ma natte pour me faire une coiffure qui ressemblerait à une perruque, au cas où j'aurais une perruque, que les gens voient pas la différence. Et donc ce geste, ce rite de passage que je décidais de faire pour prendre les devants sur la maladie et la chimiothérapie, elle a décidé de le faire avec moi. Et au moment où elle me filme en train de me dire bah, « Tiens, là, vas-y, coupe j'ai un geste qui lui rappelle peut-être tiré à l'arc et elle me dit « Tiens, voilà, tu es une Amazone ». Et en fait, elle m'a glissé mon prochain projet, puisque de ce cancer, j'ai décidé de le transformer en une forme de catharsis, en un ex-voto. Et j'ai fait un ex-voto XXL, une sculpture inspirée d'une Amazone du Met, qui est la seule Amazone au Met, au Metropolitan, où je me baladais entre mes traitements et je la découvre. Elle a une cicatrice du même côté que moi et elle a un air ultra serein qui me calme, qui m'inspire. Et du coup, je me dis, bah tiens, je vais sculpter ma version. Et je l'ai faite en 4 mètres de haut, puis comme un rite de passage, justement à la fin de mes traitements, je l'ai fait voyager sur une barge sur la Hudson River et j'ai invité tous mes proches, mes amis qui m'avaient soutenue pendant les traitements. Et je l'ai recouverte, elle, de d'encens, comme des aiguilles d'acupuncture, et ils y ont mis le feu. Et cette fumée s'est élevée et ça m'a fait du bien.
Alors là, vous avez parlé d'apaisement, de sérénité, et moi je ne peux pas m'empêcher de penser à la figure du Bouddha auquel vous vous êtes intéressée pour une nourrie, notamment lors d'un PET scan.
Oui, alors c'est vrai, je passais mon premier PET scan, qui est donc radioactif, hein, et j'essayais de m'éloigner un peu de tout ça par la pensée, et je devais à ce moment-là décider quel projet je faisais pour le musée Guimet qui arrivait quelques temps plus tard, et que je ne voulais pas annuler, même si je savais pas très bien vers quoi j'allais avec la chimio. Et là, c'est l'image du Bouddha qui m'est venue parce que le musée Guimet, c'est un endroit où on passe d'une pièce à l'autre comme si on passait à travers plein de cultures. Et on passe de la Chine à l'Inde en passant par justement Bamiyan. Et c'est ces Bouddhas qui m'ont inspirée parce qu'à ce moment-là, il y avait Palmyre qui était en train de se passer. Et j'ai imaginé cette sculpture qui s'appelle « La destruction n'est pas une fin en soi » puisque ces Bouddhas de Bamiyan, même s'ils n'étaient plus présents, finalement leur absence était extrêmement parlante. Donc j'ai sculpté une version de ces Bouddhas cassée, mais qui en même temps tenait debout puisque la tête était tout en haut du musée et chaque morceau du corps à différents étages et les pieds bien ancrés au rez-de-chaussée.
On voit dans votre œuvre des corps disloqués, mais la vie est bien plus présente que la mort, même s'il y a un fantôme de plâtre qui existe avec des yeux saisissants en marbre de Carrare. Je pense à l'œuvre Transfusion de 2012, qui est une main argentée qui se dresse à la verticale et dont les ongles sont prolongés par des branches comme celles d'un arbre. Et je crois que c'est ainsi que vous voyez votre œuvre, comme un arbre avec ses multiples ramifications.
Ouais, complètement. C'est vraiment cette image-là qui me vient à chaque fois, comme si les racines étaient les experts dont je m'inspire, avec qui je travaille pour penser un projet. Puis après, le tronc va être le projet en lui-même, qui parfois, souvent, est éphémère d'une manière différente, replonger une sculpture dans la rivière, d'où la terre provient, comme le Gange, ou alors enfouir l'armée en Chine pendant jusqu'en 2030. Et les branches sont ensuite toutes les inspirations qui en découlent, les rencontres aussi, et d'où l'importance de la continuité pour que les branches n'arrêtent jamais de pousser.
Oui, mais c'est la faute d'Ève, il n'a rien fait lui Adam, il n'a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné, c'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé.
La faute à Ève d'Anne Sylvestre. Prune Nourrie, dans Genesis, vous avez fait une performance autour d'Adam et Ève, où Ève est interprétée par Katsuni, l'ex-star du cinéma pornographique, sur une musique de Vivaldi. Alors pourquoi Katsuni ?
Parce que c'était une amie, une femme qui m'inspirait, qui était justement à un moment de sa vie où elle décidait de changer de cap. C'est aussi quelqu'un de très sensible, de très intellectuel, de très réfléchi. Et j'aimais sa sensibilité. Et là, c'était l'idée justement de s'inspirer de formes sculpturales et de transformer ça en une performance où on reprenait des positions de sculpture classique. Et on était dans justement l'anti-cliché sur à quel point un Adam peut être finalement efféminé, recouvert de terre, et une Ève, ici, se fabriquer elle-même à partir d'eau et être elle-même non genrée. Donc c'était vraiment pour montrer le comment est-ce que le monde n'est pas binaire, le monde est complexe, et du coup justement d'être loin des clichés et loin des dogmes.
J'ai jamais eu une vue heureuse. Il s'est dit que si tu es une femme, tu, Tu n'as pas des projets. Les projets, en tant qu'enfant-fille, c'est le mariage.
Le rêve que j'avais, je ne pourrais pas réaliser ça parce que je ne suis pas allée à l'école. Une avocate pour défendre les femmes. Si j'étais une avocate, j'allais défendre surtout les femmes. Plein de choses qu'on fait suivre à les femmes dans mon pays. Des maltraitances. Dans mon pays, les femmes n'ont pas un mot à dire.
Prune Nourry, vous avez été invitée par le Grand Paris Express à concevoir une œuvre pérenne pour la gare Saint-Denis-Pleyel qu'on pourra découvrir à l'automne prochain. Vous avez conçu 108 Vénus et on entend une femme qui a posé pour vous dans le court-métrage documentaire de Vincent Lorca intitulé Vénus. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce projet ?
C'est un projet, j'ai été invitée pour réaliser ce projet il y a 3 ans et je ne me sentais pas forcément légitime de réaliser un projet qui parlait de Saint-Denis, alors que je ne venais pas de là-bas. Et j'ai tout de suite voulu travailler sur les femmes de Saint-Denis. Je me suis d'abord renseignée auprès d'experts, auprès aussi du milieu associatif, qui est hyper vivant là-bas. Il y a un tissu associatif incroyable.
Et l'archéologie aussi.
Et l'archéologie, exactement. Donc ça a été mes inspirations pour penser ce projet. Et j'ai profité de ces 3 ans en me disant ben, on va faire différentes étapes à ce projet. Et donc, il y a eu l'idée des Vénus, que j'ai pensé aussi, bien sûr, en lien avec l'architecte Kengo Kuma. 108 Vénus taille humaine qui vont être de manière pérenne dans la gare et qui toutes sont inspirées par les Vénus préhistoriques de la période gravétienne, qui sont les premières représentations de la femme et qui tiennent dans une paume de main.
Et qui ne sont pas celles auxquelles on pourrait s'attendre. Tout à l'heure, vous disiez justement, loin des clichés, loin des dogmes, justement, ces Vénus ont toutes sortes de morphologies.
Exactement, elles sont, mais en fait, inspirées des vraies Vénus, qui, on a tendance à toujours les imaginer rondes, symboles de fertilité, mais en fait, on ne sait absolument pas exactement ce qu'elles veulent dire, pourquoi elles ont été fabriquées à l'époque, qui les a fabriquées. Et c'est ce mystère aussi qui m'intéresse. Mais surtout, elles ont effectivement toutes les formes. Et finalement, la diversité des formes de ces corps, la diversité aussi des couleurs de terre vont représenter les femmes de Saint-Denis.
On est un peu malade dans notre société avec cette idée que l'enfance est plus important que tout, la vie c'est plus important que tout et on se préoccupe absolument pas de, ben, une fois que la vie est là, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça me rend très malheureuse. Il y a aussi cette question qui est, est-ce qu'une femme a le droit de décider de ce qu'elle va faire, de ce qui est dans son ventre ? Et je trouve que c'est une question qui interpelle complètement la société. On peut soit se cacher derrière des concepts religieux en disant la vie est sacrée, ben à ce moment-là, elle est sacrée à 3 jours et demi, tout pareil. Si on part du principe que un enfant, c'est quelqu'un qui doit être attendu, aimé, désiré, je ne sais pas s'il y a un terme mieux qu'un autre pour avorter. Je crois qu'il faut que la femme soit vraiment écoutée.
On entend la gynécologue obstétricienne Rada Atem, que j'avais reçue dans L'Embellie sur la chaîne en 2022. C'est la fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis, structure créée en 2017 qui accueille et vient en aide aux femmes victimes de violences ayant subi des agressions, des mutilations sexuelles, qui sont prises en charge par une équipe pluridisciplinaire. Et ce n'est pas anodin si je passe un extrait de cette interview, Prune Nourry, parce que vous êtes allée raconter votre projet avec une certaine appréhension à cet endroit.
Oui. Les 108 Vénus qui vont être présentées dans la gare sont inspirées des Vénus gravétiennes, mais du fait du temps que j'avais devant moi, j'ai voulu faire comme une version micro de ce projet en macrocosme. Et je suis allée travailler en lien avec une association, la Maison des Femmes, que j'admirais de loin, j'admirais Rada Atem de loin. Je l'ai rencontrée, elle a tout de suite été partante pour le projet, m'a ouvert les portes de la Maison des Femmes. Et là, je suis allée présenter à chaque atelier cette idée. Et j'ai 8 femmes ultra courageuses qui ont décidé d'y participer, sachant qu'il fallait poser nu. Au-delà d'une problématique culturelle, d'une problématique aussi peut-être de pudeur, elles ont accepté. Et j'ai fait leur portrait à la manière des Vénus gravétiennes.
Le morceau qui revenait le plus à la fin de chaque séance de leur part, c'était le mot « reconstruction ». Votre premier choix musical, Prune Nourrie, ça fait partie d'un album pour sculpter, c'est Jean Harris and the Three Sounds, Elegant Soul.
Oui, c'est bien d'avoir de l'âme, Elegant Soul. Et elle, ça, c'est une musique qui me transporte quand je sculpte. Donc, les mains dans la terre, cette musique dans les oreilles, je ne peux pas être plus heureuse.
Vous travaillez toujours en musique ?
Oui, et en écoutant des podcasts, dont vous.
Ah bah j'espère. Non, c'est vrai ?
Carrément.
Ah bah là, je suis très flattée, je rougis vite. Un morceau japonais. Ore no kanojo wa soko soko bijin aiso mo ii ki no kikuko dato nagama uchi demo hyoban dashi hey ore no kanojo wa shumi ya shigoto ni Votre second choix musical, Prune Nourrie, c'est Hikaru Utada, Ore no Kanojo, ma petite amie. Comment avez-vous découvert ce titre ?
J'ai rencontré Hikaru au Château Lacoste cet été, et ça a été une rencontre des âmes, justement. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est de voir comment on peut se trouver une sœur de cœur alors qu'on n'a pas du tout la même culture, pas du tout les mêmes cadres de référence, on n'a pas grandi de la même manière. À l'autre bout du monde, on a une langue en commun et en fait, on peut tous dire.
Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs, c'est avec elle qu'on va conclure l'émission, on a à peu près une minute pour en parler à peine. Et je crois que cette découverte a justement un lien avec Radha Atem qu'on évoquait tout à l'heure.
Oui, c'est le livre « Une révolution intérieure » qui a été écrit par Gloria Steinem et il vient de ressortir avec une préface de Mona Chollet. Et c'est un livre que tous les humains devraient lire, notamment les femmes. C'est sur l'estime de soi. Et l'importance de construire cette estime de soi dès le plus jeune âge, chez un enfant, garçon, fille, parce que finalement, c'est comme ça qu'on construit un pilier intérieur qui nous permet plus tard de pouvoir aider les autres. Alors que si ce pilier est cassé, finalement, on passe une vie entière à essayer de le réparer et on s'intéresse trop à soi, pas assez aux autres.
Et il y a un autre livre dont vous vouliez parler, je crois, c'est L'Empire de l'Ombre, Guerre et Terre au temps de l'IA, sous la direction de Giuliano D'Ampoli. On l'entend en ce moment d'ailleurs un peu partout, puisque Olivia Assayas a adapté son livre et est venue nous en parler ici même, très récemment.
C'est pour moi ce livre une référence, une claque, mais au-delà de ça, c'est Le Grand Continent, c'est vraiment sa revue que je trouve impressionnante et nécessaire. Parce qu'il y a plein de perspectives dedans, en fait, de pouvoir justement lire tant un texte de Sam Altman qu'un texte de Curtis Yarvin, qu'un texte de Giuliano D'Ampoli, et de pouvoir voir justement que la vie est complexe, que les perspectives des uns sont aux antipodes des autres, mais que le plus grave là-dedans, en fait, c'est juste le dogmatisme. Donc de pouvoir avoir le grand continent, de pouvoir avoir des gens comme ça qui nous permettent d'être dans la nuance, qui nous permettent de réfléchir plus en profondeur et de prendre le temps, c'est essentiel.
Eh bien, nous mettrons la référence de ce livre sur le site de l'émission. Merci beaucoup, Prune Nourrie.
Merci, Eva.
En attendant votre carte blanche au Petit Palais à l'automne et le dévoilement de vos 108 Vénus à la gare Pleyel de Saint-Denis, en février, vous exposerez votre armée des 108 têtes des Chibok Girls du Nigeria au Makal au Maroc. Et pour ceux qui aimeraient se familiariser avec votre œuvre, je rappelle qu'une monographie a été éditée aux éditions de La Martinière, qu'on peut vous voir sur plein de vidéos sur le site de la galerie Templon et que vous aurez une exposition en mai au Palais Idéal du Facteur Cheval dans la Drôme. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Élise Christophe.